Il est 13h34 minutes. Les Chinois sont-ils en liberté dans leur propre pays? Eh bien, quand on lit un article qui est signé par Marc Thibodeau dans la presse ce matin, on peut en douter. En fait, c'est la question que l'on se pose aussi quand on regarde tous les systèmes de surveillance qui ont été installés dans les grandes villes chinoises. Des milliers de caméras qui surveillent les lieux publics, qui peuvent détecter les visages de tout le monde. Alors, le journaliste Marc Thibodeau en a fait l'expérience lui-même quand il est allé là-bas pour faire un reportage. Il est avec nous. Bonjour, M. Thibodeau.
Bonjour.
Alors, racontez-nous l'expérience. D'abord, vous alliez, quand ça s'est passé et vous alliez faire quoi là-bas, au juste?
Écoutez, je me suis rendu en Chine en mars dernier. Je voulais faire deux sujets. Un sujet qui m'intéressait particulièrement, c'était l'utilisation des systèmes de reconnaissance faciale.
Ouais. Parce que
le gouvernement chinois met beaucoup d'énergie à développer cette technologie-là. Donc, ils sont un peu à l'avant-garde dans le domaine, pour le meilleur et pour le pire. Et ils vendent l'idée à tort ou à raison à la population qu'ils sont un peu capables de surveiller les gens partout. Donc, la première semaine, les premiers jours, j'étais là, je regardais, il y a un journal, le Global Times, qui a une édition en anglais, et il y avait plusieurs articles disant, si vous venez dans telle ville et que vous êtes recherché, en moins de 2 minutes, on va vous retrouver.
Ah oui, hein?
Faisait beaucoup circuler des photos d'agents de police qui étaient dans une gare durant une fête où il y avait beaucoup d'achalandage, et les gens avaient des espèces de lunettes à la Robocop qui devaient leur permettre, par identification faciale, d'identifier des gens recherchés. Donc, ils insistent beaucoup. Ce qui est plus difficile, c'est de faire la part des choses et de voir dans quelle mesure le système est aussi efficace que ce que leur prétention voudrait nous le faire croire. Et c'est dans ce contexte-là, je me suis intéressé notamment à un artiste, Wayang, qui est un peu un artiste dissident, qui avait notamment filmé des manifestations à Pékin de gens qui n'étaient pas contents d'avoir vu leur maison rasée par le gouvernement. Le gouvernement disait qu'ils étaient établis dans une zone illégalement. Bref, ils ont rasé leur maison. Et le gouvernement n'était pas très content que l'artiste en question diffuse cette vidéo-là à travers son compte, c'est les réseaux sociaux. Donc, ils ont commencé à le rechercher. Et lui a réussi donc à échapper aux autorités pendant 10 jours, essentiellement en se mettant un chapeau, un casque de chirurgie, ou comme on voit souvent dans les pays asiatiques, que les gens mettent pour protéger contre la pollution. Et il aura fallu donc 10 jours pour réussir à le retrouver, ce qui semble quand même contredire
les prétentions des autorités, oui.
Exactement. Et enfin, donc là, c'est pour ça que je me suis intéressé à lui. Et lui, donc, a quand même fini par être retrouvé, mais apparemment, dit-il, parce qu'il pensait qu'il avait été retrouvé parce qu'il était brièvement connecté sur Internet à travers le Wi-Fi d'un ami. Parce qu'évidemment, je parle de la reconnaissance faciale, mais le gouvernement chinois monitore assez étroitement tout ce qui se fait en ligne. D'abord, il n'y a pas les grandes compagnies, les grands réseaux sociaux qu'on connaît au Canada, aux États-Unis et en Europe sont pas accessibles là-bas. Facebook, Twitter. Donc, il y a des équivalents chinois, et le hic pour les Chinois, c'est que ces compagnies-là sont à toute fin pratique obligées d'obtempérer quand le gouvernement demande l'accès à des données.
Okay. C'est le contraire de nous autres. Nous autres, les compagnies des médias sociaux disent tout. Non, on n'envoie pas vos données au gouvernement. Eux autres, c'est le contraire. On dit oui, on les envoie au gouvernement.
c'est très curieux parce que ce qu'on constate en Chine, c'est que les Chinois sont très critiques des compagnies de l'utilisation de leurs données quand ils ont l'impression d'avoir été. Quand les particuliers ont l'impression d'être lésés, ils n'hésitent pas à s'en prendre aux compagnies. Mais l'éléphant dans la pièce, qui est ce que le gouvernement fait des données, ça, c'est un sujet qui est pas discuté. C'est compréhensible, évidemment, puisque le gouvernement n'apprécie pas tellement les critiques, et quiconque ça vise de trop insister sur le sujet peut
le regretter, ultimement.
Peut le regretter, en tout cas, se ramasser avec des problèmes sérieux avec les autorités. Mais... D'ailleurs, M. Wayang, l'artiste que j'ai interviewé, quelques mois plus tard, il a soutenu une femme qui avait projeté de la peinture sur une photo du président chinois, et il a été placé temporairement en résidence surveillée. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, à côté de ça, un correspondant ou un journaliste occidental qui passe en Chine, c'est des menus considérations par rapport à ce que les dissidents chinois doivent supporter comme pression de la part des autorités lorsqu'ils veulent parler d'aspects de démocratie.
Ouais. Est-ce que ces moyens de surveillance-là, là, pour un œil exercé comme le vôtre, parce que vous alliez là-bas, entre autres, pour voir ces moyens qui sont utilisés pour surveiller les gens, est-ce que ça saute aux yeux? Est-ce que c'est visible? Ou si au moins ils font un effort de les dissimuler quelque part?
Ben, ce qui saute aux yeux, c'est les caméras. Donc, il y a une omniprésence de caméras. Évidemment, je pense par exemple à la place Tiananmen, les caméras se comptent par centaines. Il y en a 8, 9, 10 sur les poteaux. En fait, ce qui est fascinant, c'est que la présence des caméras se normalise et l'utilisation de la reconnaissance faciale se normalise aussi. Donc, évidemment, moi, j'ai été intéressé par l'aspect de l'utilisation de cette technologie-là à des fins sécuritaires, mais dans un temple, il y avait un distributeur de papier toilette qui fonctionnait avec un système de reconnaissance faciale.
Ben voyons donc.
Et la logique étant que là, apparemment, les gens prenaient trop de papier. Donc là, tu venais, puis l'appareil reconnaissait ton visage. Et là, donc, tu ne fais pas revenir avant, disons, 15 minutes pour prendre un autre morceau de manière à limiter le gaspillage. Il y a un autre cas, c'était un magasin, en fait, donc dans lequel il n'y avait aucun personnel. L'entrée et la sortie du magasin se faisaient de manière électronique et avec un système de reconnaissance faciale. Donc, une fois qu'on s'était enregistré auprès de la compagnie, il y avait une caméra à l'entrée, elle reconnaissait notre photo, nous laissait rentrer dans le périmètre du magasin. Quand on voulait ressortir, il y avait le même système à l'envers. Ce qu'on avait dans les mains comme article était automatiquement détecté, avec des puces RFID. Et là, on pouvait ressortir et notre compte était automatiquement débité.
Donc, on peut savoir si quelqu'un a essayé de voler ou si quelqu'un...
Tout est surveillé sous caméra. Après, comme je vous disais, le gouvernement chinois donc fait beaucoup de discours autour de la question, mais pas très transparent. Donc, moi, j'ai pas eu l'opportunité d'aller voir dans les installations gouvernementales, puisque, évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ambivalence, et même après avoir... en ayant passé une dizaine de jours sur place, que je pourrais vous donner description exacte, mais ce qui est clair, c'est que j'ai vu qu'il y avait une part d'exagération, mais ça veut, ils ont quand même des objectifs très précis. L'un d'eux, c'est notamment de créer une banque de données faciales qui doit permettre, je pense que c'est à l'intérieur de 4 ou 5 secondes, de reconnaître à peu près n'importe qui dans la population chinoise, ce qui est évidemment du point de vue technologique quelque chose d'extrêmement compliqué et qui n'existe pas
actuellement. Il n'y a pas encore d'équivalent. Mais vous-même, pendant votre séjour là-bas, à un moment donné, la paranoïa vous a un peu gagné jusqu'à un certain point. On essaie d'induire cette paranoïa, puis ça semble marcher, hein?
Ouais, franchement, je suis pas sûr que je figure très haut dans la liste des priorités du gouvernement chinois.
Je comprends, mais quand on se sent surveillé, des fois, on a l'impression qu'on l'est, puis on l'est pas en réalité.
Ben, c'est clair. Donc, dans ce cas-là, et moi, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus ce matin, puisque ce matin, c'était juste un petit texte de suivi sur les dossiers que j'avais fait pour relater nos expériences personnelles de l'année à la presse, là. Mais c'est clair que quand tu penses sécurité, surveillance, tu interroges des gens qui sont soit poursuivis ou soit travaillent sur ce sujet-là, tu finis par te demander si tu vas pas toi-même arriver à connaître des difficultés avec les autorités, puisque par exemple quand on parle avec des dissidents, c'est pas quelque chose que le gouvernement chinois encourage, le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et il y a parfois beaucoup d'arbitraire dans les interventions. Je sais pas comment on le voit en ce moment avec l'arrestation récente de deux Canadiens dont Ottawa réclame la libération. Les autorités suivent pas toujours nécessairement une ligne de conduite qui serait celle qu'on attendrait d'un pays occidental. Donc, ça rend un journaliste occidental potentiellement un peu nerveux. Mais comme je le disais plus tôt, ce que moi j'ai pu vivre comme stress, c'est sans commune mesure avec ce que doivent supporter les critiques du gouvernement en Chine qui ont des problèmes autrement plus sérieux que mes petites angoisses passagères.
Mais est-ce que vous avez été capable d'en parler avec... vous avez parlé de l'artiste, là, Yo Young, là. Mais avec les gens en général, est-ce que vous avez été capable de parler de ça? Et qu'est-ce qu'ils en pensent généralement là, de cette hyper-surveillance-là qu'on fait d'eux?
Ça, c'est toujours une question... piège un peu parce que les gens, évidemment, quand ils parlent avec un occidental, en particulier un journaliste occidental, ils vont avoir tendance à être très prudent. Mais je dirais quand même au-delà de cette réserve-là là, qui fait qu'on n'a pas nécessairement une transparence totale, les gens sont moins heurtés qu'on pourrait l'être ici. Quoi. Je pense que si on disait au Canada, OK, demain, on va avoir un système de reconnaissance faciale établi partout au pays qui permet aux autorités de nous identifier immédiatement, je pense que ça pourrait susciter des grincements de dents assez sérieux. Mais en Chine, les gens vivent un peu dans par la force des choses, dans cette intrusion-là permanente de l'État, et donc finissent par l'accepter jusqu'à un certain point. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'apprécie, mais il n'y a pas de... Tu sais, les gens à qui j'ai pu en parler n'étaient pas indignés par la chose. Il y a même des gens parfois qui étaient convaincus de son utilité. Je donne un exemple. Il y a une intersection à Shanghai qui est monitorée avec une caméra de surveillance. Et là, ils veulent, pour décourager les gens à passer sur la lumière rouge, ils filment donc les gens, et avec le système de reconnaissance faciale, ils reconnaissent les gens qui ont pas respecté la lumière, et ils projettent parfois leurs photos sur un écran.
Ben voyons
pour dire,
donc.
Voici telle personne enfreint la loi, et en général, lorsqu'il y a une reconnaissance des individus, les individus reçoivent une visite de la police qui les sanctionne en disant « bon, vous n'avez pas respecté le passage ». Donc, il y a toutes sortes d'utilisations qui sont faites, qui sont de l'extérieur éminemment contestables, mais qui, pour certains Chinois, semblent assez bien acceptées.
En tout cas, c'est fascinant. Vous irez lire cet excellent papier, Paranoïa au pays de Big Brother, de Marc Thibodeau. Moi, je me suis régalé en lisant ça. Merci, M. Thibodeau, d'avoir été avec nous.
Merci. Au revoir. Merci pour votre intérêt. Au revoir.
Marc Thibodeau est journaliste à La Presse. Et vous irez voir ça. C'est incroyable, la surveillance qu'ils exercent. Si vous pensez que c'est de la science-fiction quand vous écoutez les films de Jason Bourne, par exemple, puis qu'ils reconnaissent les gens dans les aéroports, bien, sachez que ça existe en Chine.